Cet épisode a été réalisé dans le cadre du programme CEPAGE, porté par les communautés de communes de Haute-Gironde, dans le cadre du programme régional Santé-Environnement. Cette démarche vise à co-construire les pratiques viticoles en Haute-Gironde, respectueuses de l'environnement et de la santé. Épisode 10, culture de la vigne et changement climatique.
Après avoir abordé les changements de pratiques à l'œuvre dans le monde viticole, nous allons maintenant nous concentrer sur un enjeu central pour l'avenir de la viticulture, qui est son adaptation au changement climatique. Comment l'activité viticole va-t-elle être impactée par ce phénomène? Comment les viticulteurs font-ils déjà face aux effets très concrets du dérèglement climatique? À plus long terme, quelles stratégies d'adaptation peuvent être envisagées? Pour commencer, nous écoutons Thierry Mazet, directeur de la Chambre d'agriculture de Gironde, qui nous dresse un état des lieux des effets qui se font sentir déjà aujourd'hui.
Le changement climatique aujourd'hui, c'est une réalité, enfin, je pense que tout le monde le perçoit dans sa vie quotidienne. Et en premier lieu, les premières victimes, je dirais, du changement climatique, au niveau local, hein, je ne parle pas mondial, ce sont les agriculteurs. Parce qu'ils sont tributaires dans leur outil de production et tributaires de la météo, par définition, de la météo, du sol, etc. Donc, ils sont les premières victimes de ce changement climatique. Donc, l'impact du changement climatique, pour répondre à la question, aujourd'hui, il est vécu par l'ensemble des agriculteurs. Si je prends l'exemple de la viticulture, puisqu'on est dans un département très, très viticole, il se fait sentir donc au niveau des aléas climatiques, il se fait sentir aussi par rapport à l'évolution du degré, enfin de l'alcool dans le vin, puisqu'on a à part cette année qui est vraiment une année un peu atypique, mais la plupart des années précédentes, on constate que les vendanges sont de plus en plus tôt, que les raisins que l'on récolte sont de plus en plus concentrés. Et du coup, on a des vins qui sont facilement à 13, enfin à 14, 14,5 degrés d'alcool, chose qu'on ne connaissait pas historiquement dans le Bordelais. Donc, c'est un impact, vous voyez, sur le produit, le produit viticole sur le vin directement. Pour en revenir aux épisodes climatiques, on le voit même sur une production comme la vigne. La vigne est une plante qui va chercher l'eau très loin, dans la racine très profonde. On voit bien que dans les épisodes très secs, c'était le cas pas de cet été, mais de l'été 2020, certaines parcelles ont souffert parce qu'il y avait un manque d'eau. On voit de plus en plus d'ailleurs, au niveau français, mais même en dehors de la France, de l'irrigation en viticulture.
L'effet le plus visible, le plus médiatisé, et celui qui fait le plus de dégâts, c'est bien les épisodes de gel de plus en plus fréquents. Celui qui a frappé la région en avril 2021 a entraîné une perte de récolte pour une grande partie des viticulteurs.
Un aléa climatique sur le gel 2021 assez conséquent, puisqu'on a pu... On a pu identifier à peu près 30% de perte de récolte sur la moyenne, on va dire, de nos 34 vignerons partenaires.
Jean-François Réau, des vignobles Gabriel.
C'est quand même un épisode non négligeable. Les événements climatiques de type gel printanier, moi j'en ai connu deux, entre les années 80 et les années, on va dire, 2010. J'en ai connu deux, dont un majeur en 91. Mais entre ces deux événements, zéro, quoi. Par contre, depuis 2010, on va dire 2015, tous les ans, il y a un gel printanier, plus ou moins fort, plus ou moins perceptible, plus ou moins médiatisé, mais en tout cas, il y a un épisode de gel printanier tous les ans, ça c'est clair. C'est dû essentiellement à des hivers beaucoup plus doux, et donc un débourrement de la vigne très, très précoce, en fait, et qui ne nous affranchit pas de gel au mois d'avril, voire au mois de mai, de toute façon.
Céline Martineau, viticultrice.
Cette année, on a gelé, mais je peux peut-être aussi commencer, parce que ça fait 5 ans, en fait, depuis 2017, que l'on a commencé à avoir des aléas climatiques. En fait, en 2017, on a gelé, enfin, sur mon secteur, enfin, dans notre région. On a grêlé en 2018, gelé en 2019, et 2020 une année normale, et 2021 nous avons de nouveau gelé. Donc, comme je le disais, j'ai perdu 80% de ma récolte cette année encore. Donc une année très très compliquée. En plus, une année compliquée parce qu'on a eu beaucoup de pluie, très peu de soleil, donc un peu de pression mildiou, très compliqué à gérer. Donc je suis en bio, ça a été d'autant plus compliqué parce qu'il a fallu traiter beaucoup plus. Donc 2021, une année à oublier. Quoi. Ces cinq dernières années avec nous, les aléas climatiques, ce que l'on parle, enfin, c'est le côté assurance, le côté financier. Ce qu'on ne parle pas, c'est peut-être le côté psychologique que l'on subit. Et donc moi, pour ma part, donc c'est le quatrième aléa climatique majeur sur ces cinq dernières années. Hormis le fait que financièrement, ça va être compliqué, psychologiquement, c'est très très difficile. Parce qu'on travaille toute l'année, malgré le fait que l'on est gelé cette année, on doit continuer à travailler et des vignes où on n'a pas de raisin. Et c'est frustrant. Enfin, cette année, alors les autres années, j'avais mal vécu. Cette année, j'ai particulièrement mal vécu ce gel. C'était une fois trop, et avec la pression que l'on a aussi, sociétale que l'on a sur notre métier, c'est... ça a été très très compliqué. On ne parle pas beaucoup, les vitis, enfin la plupart des viticulteurs ne parlent pas de ce genre de choses. Ils n'aiment pas trop, mais je pense que c'est important aussi de le dire.
Pour faire face aux événements climatiques extrêmes qui se répètent, certains viticulteurs mettent en place des dispositifs techniques, tels que des tours anti-gel. Jean-François Réau, des vignobles Gabriel, l'a mis en place sur ses exploitations.
Ça ressemble un peu à des éoliennes, mais ça ne travaille pas de la même façon déjà, parce qu'une éolienne, les hélices d'une éolienne travaillent verticalement, alors qu'une tour anti-gel, on travaille horizontalement. Le matériel, il est mobile au lieu d'être fixe, c'est-à-dire il est installé sur des remorques, donc avec un gros avantage, c'est qu'en dehors des périodes de risque, ce matériel peut être remisé. Et quand on veut le mettre en place, quand il y a les périodes de gel, on le déplace évidemment à des endroits stratégiques qui sont calculés en fonction du périmètre qu'on veut couvrir, bien entendu, mais aussi de la direction majeure des vents. Donc tout ça est un calcul un petit peu savant avec un outil, une application avec un GPS, etc. Le matériel, une fois qu'il a été mis en place avec un tracteur à son point précis, il est déployé parce qu'en fait, pour pouvoir le rendre mobile, il faut que la tour elle-même soit repliée, parce que sinon on ne peut pas rouler. Une fois qu'il est mis en place, il est calé parce que sinon il y aurait du ballon, donc c'est calé de façon précise. Et ensuite, il est déployé, ce qui fait qu'une fois déployé, il monte à 6 mètres de hauteur. Et là, il est en poste d'attente avec un système d'automatisation qui fait qu'il est programmé pour qu'à 2 degrés Celsius, il se mette en route automatiquement. Voilà. Et quand il se met en route à 2 degrés, il a, c'est une turbine, en fait, qui tourne, enfin, qui pulse de l'air horizontalement. Et cette turbine, sur son mât, fait une rotation à 360 degrés, ce qui n'est pas le cas d'une éolienne qui, elle, est fixe et envoie de l'air d'un côté seulement, vous voyez. Donc, ça tourne à 360 degrés et c'est l'air qui est pulsé par cette turbine qui chasse les courants frais et qui les renvoie en hauteur. Enfin, ça fait un système Venturi, en fait. Voilà. Et pour accentuer l'efficacité de ces tours, parce que là, toutes seules, elles ont une efficacité jusqu'à moins 2, moins 3, mais pour leur donner une efficacité jusqu'à moins 5, moins 6, on dispose en périmètre de cette tour, en cercle donc, à une cinquantaine de mètres autour de cette tour, on dispose des points chauds Alors, ça peut être des braseros, ça peut être des bottes de foin, ça peut être plein de choses qui dégagent de la chaleur et surtout de la fumée chaude. Et donc, la turbine s'engouffre dans ces fumées chaudes et les repousse aussi plus loin pour couvrir une meilleure zone et surtout ramener plus de chaleur. Voilà.
Cet investissement, coûteux, a été possible car il a été fait en collectif au sein d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Une autre manière de répondre à cet enjeu est d'adapter le matériel végétal, c'est-à-dire les plantes utilisées pour produire le raisin. C'est là que les pépiniéristes viticoles, qui produisent les pieds de vigne, entrent en jeu.
Quand la viticulture dit « on a un souci, on a des cépages trop précoces ou on a trop de degrés, on a des cépages trop sensibles à certaines maladies, attention, ces cépages ne vont plus rien produire dans quelques années », parce qu'il fera trop chaud dans ma région. Voilà, tous ces sujets-là sont pris en compte.
Delphine Bougès, présidente du syndicat des pépiniéristes de Gironde.
Et donc, nous, pépiniéristes, nous devons être à l'écoute parce que nous devons multiplier les cépages et les variétés de demain. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on greffe ce qu'on appelle des cépages à fin d'adaptation. Donc c'est le projet que Bordeaux a mis en place, hein, ou dans l'ODG, Bordeaux, enfin, et puis dans le Grand Bordeaux en général, on va mettre à l'essai des cépages rouges et blancs qui seront observés pendant une dizaine d'années, de manière à voir s'ils peuvent être intégrés définitivement dans les cahiers des charges. Et ces cépages sont plus tardifs souvent, donc du coup par rapport au gel, ils débourrent plus tard. Donc, il y a moins de risques de gel. Voilà, il y a tout ce genre de sujets. Et puis, c'est aussi les variétés résistantes, puisque vous parliez de proximité d'habitation, vous parliez de moins traité, voilà, développement durable aussi. On multiplie déjà des variétés résistantes. Donc là, il y a tout un travail de recherche là-dessus. Donc aujourd'hui, en France, on a ce qu'on appelle les RESDUR 1. C'est un travail qui a été fait depuis de nombreuses années. Hein. On n'a pas attendu qu'on nous parle de développement durable, de changement climatique ou autre chose. La recherche n'a pas attendu ça pour travailler. C'est une trentaine d'années de recherche qui a mené à aujourd'hui pouvoir greffer 4 variétés résistantes. Qui sont des variétés INRA, qui sont Voltis, Floréal, Artaban et Vidoc. Voilà, donc c'était une première sélection qui a sorti 4 variétés. Donc aujourd'hui, les viticulteurs les plantent en IGP ou en vin sans IG, ce qu'on appelle communément les vins de table. Et donc, dans courant 2022-2023, nous allons pouvoir commencer à... Enfin, la recherche va pouvoir commencer à sortir d'autres variétés, les RESDUR 2, voilà, où on aura d'autres variétés qui vont être présentes. Donc là, je parle de production française. Voilà.
La production de matériel végétal adapté au changement climatique est effectivement un enjeu central pour pouvoir continuer de produire du vin.
Donc, le travail sur les porte-greffes, les porte-greffes représentent l'interface entre le sol et puis le cépage. Hein, donc, c'est un élément important du matériel végétal.
Nathalie Ola, chercheuse à l'INRAE de Bordeaux.
Et ce porte-greffe, il doit permettre le mieux possible de tenir, enfin de capter les ressources qu'il y a dans le sol, donc notamment l'eau et les éléments minéraux. Le changement climatique, on pense que même si, je disais, la sécheresse ne sera pas forcément le facteur le plus important à Bordeaux, mais dans d'autres régions viticoles, il le sera. Et donc, on sait qu'on va devoir quand même fonctionner avec moins de ressources en eau, qu'il faut les économiser. Et le porte-greffe, ça peut être un moyen de mieux valoriser les ressources en eau du sol sans avoir recours à l'irrigation. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Le porte-greffe peut également favoriser l'assimilation des éléments minéraux. On a malheureusement peu de connaissances sur l'impact du changement climatique sur la fertilité des sols, hein, et comment l'augmentation de la température de l'air, mais aussi du sol, va affecter tous les processus physico-chimiques qui qui font que les éléments minéraux sont disponibles pour les plantes. Mais en tout cas, cette greffe joue un rôle aussi sur globalement la capacité de la plante à se développer et à produire du raisin.
En plus de ces réponses techniques, il semble nécessaire de réfléchir à l'adaptation des exploitations viticoles de façon plus globale. Plusieurs projets sont en cours pour aider les viticulteurs à s'adapter d'une manière qui diminue également leur contribution au changement climatique. Une de ces réponses systémiques consiste à diversifier les productions sur une exploitation.
Ouais, mes parents, enfin ma mère me dit dans les années 60-70, il y a déjà eu des épisodes comme ça, mais seulement les exploitations étaient plus petites, n'étaient pas en monoculture, ils avaient d'autres cultures à côté, donc je pense que l'impact il était moindre.
Céline Martineau, viticultrice.
Nous, le fait est qu'on est principalement en monoculture dans la région, et c'est ce qui est compliqué, c'est ça, quoi. Nous, les exploitations dans le secteur, mes parents, jusque dans les années 90, dans mon secteur, les exploitations étaient plus petites et ils n'étaient pas en monoculture. Vous avez un peu de céréales, un peu de bétail, des asperges. Et depuis quelques années, moi, quand je me suis installée, je me suis installée en monoculture. Voilà. Ce qui fait que quand on est impacté par un aléa, on n'a pas d'autres recours. Moi et nous ici, dans le secteur, dans tous les villages, on avait des agriculteurs, enfin, ils n'étaient pas spécialisés dans la viticulture. Hein. Moi, mes voisins, ils avaient tous un peu de céréales, de bétail, enfin, ici pas mal d'asperges, parce que c'est le coin. Donc, moi, mes parents faisaient des travaux agricoles. Ils allaient planter de la vigne dans le secteur Médoc, Saint-Émilion, Charente-Maritime. Ils allaient, en Charente. Et ils avaient une activité à côté de la vigne.
En fait, si vous voulez, on constate qu'il y a de plus en plus une attente sociétale pour avoir des produits locaux, proximité.
Thierry Mazet, directeur de la Chambre d'agriculture de Gironde.
La Gironde produit beaucoup de vin. Hein. Les besoins locaux sont loin d'être remplis en termes de, par exemple, sur les fruits et légumes, le maraîchage, des choses comme ça. Donc, il y a cette attente sociétale très forte sur les produits de proximité et l'agriculture doit y répondre. Et puis, il y a aussi un contexte économique difficile pour beaucoup de viticulteurs aujourd'hui, un marché qui est compliqué, malgré certaines embellies sur l'international, le marché national du vin diminue, enfin, on est sur la consommation en baisse. Donc, il y a certains viticulteurs qui se posent vraiment des questions. Est-ce que mon avenir passe toujours par la viticulture ? Donc, la Chambre d'agriculture essaye, pour ces deux raisons, c'est-à-dire pour répondre à la fois à la demande locale des collectivités, des consommateurs en produits locaux, autres que le vin, et pour aussi répondre à certaines situations économiques de viticulteurs, on essaye de proposer d'autres solutions. Donc, on a mis en place tout un tas de dispositifs, de conseils techniques. Ça va de la production de raisins de table, donc, qui correspond à une demande. Il y a beaucoup de viticulteurs certains viticulteurs qui disent, on sait faire de la vigne, donc on peut aussi peut-être faire de la vigne pour faire des raisins de table. Ça va de ce genre de production à la production de petits élevages, de poules pondeuses, des choses comme ça, le maraîchage bien entendu. Aujourd'hui, plus on diversifie les activités, plus on diminue les risques climatiques, parce qu'on peut considérer que tout le monde, toutes les activités ne seront pas toujours au même temps. Donc la Gironde, elle est très spécialisée en viticulture et sylviculture, la production d'arbres. Et on le voit bien quand il y a eu des tempêtes, celle de 2009 ou de 99, tout un pan a été saccagé. Donc il faut, en effet, plus on va diversifier, plus on limitera les risques.
Un autre enjeu est de bien connaître, à long terme, les impacts localisés du changement climatique. Le projet LIFE at Viclim a étudié cela, en reprenant les différents scénarios du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Laure de Rességuier nous parle de ce travail. Dans ses recherches, elle utilise l'indice de Huguelin, qui permet de calculer la température moyenne dans les régions viticoles.
L'idée, c'était de travailler sur l'adaptation de la viticulture au changement climatique, avec une première partie de caractérisation du climat à échelle locale, et puis ensuite d'améliorer les précisions des modélisations du changement climatique à échelle fine aussi, pour pouvoir mieux adapter la viticulture à cette variabilité climatique future. Voilà. On a travaillé sur 2031-2050 et la deuxième période 2081-2100 et sur deux scénarios, le scénario RCP 4.5 et le scénario RCP 8.5. Donc le 8.5, en fait, c'est le scénario le plus pessimiste dans lequel on ne fait rien sur nos émissions de gaz à effet de serre et on continue à émettre des gaz à effet de serre. Et donc, évidemment, la température à la fin du siècle augmentera de façon plus significative. Et le scénario 4.5, c'est un scénario médian, on va dire, dans lequel on stabilise nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2040. L'augmentation de la température est moindre à la fin du siècle. Et donc, on s'est projeté suivant ces deux scénarios et sur ces deux périodes, et on a regardé ce qu'il allait se passer à échelle locale sur ces scénarios. Et donc, par exemple, quand on modélise des indices bioclimatiques, eh bien, on voit de très fortes différences, surtout à long terme. À moyen terme, en fait, on a peu de différences entre nos deux scénarios. Il y a une augmentation de la température, il y a une augmentation de ces indices bioclimatiques. On gagne à peu près 180 degrés jour sur l'indice de Huguelin. Si on se projette à plus long terme, sur la période 2080-2100, eh bien, on gagne 280 degrés jour sur le scénario médian et on gagne 680 degrés jour sur le scénario le plus pessimiste. Et là, en fait, si on le ramène à des équivalents d'indices de Huguelin mesurés, ben, on n'en connaît pas, quoi. Donc, en fait, c'est jamais arrivé. On n'a jamais mesuré des indices de Huguelin de cet ordre sur... Donc, en fait, ça veut dire qu'il y aurait ça sera une augmentation, enfin, cette augmentation des températures aura des impacts forts sur la viticulture. Donc, en fait, dans l'idéal, il ne faut surtout pas arriver à ce scénario 8.5. Voilà, il faut vraiment réduire notre empreinte carbone pour essayer de limiter l'augmentation de la température. Sinon, il y aura une vraie rupture à long terme entre les deux scénarios. Il y a des projets de recherche qui sont aussi en cours sur notre unité, notamment le projet VitAdapt, où on a installé 52 cépages sur une parcelle dans la région bordelaise. Et l'idée, c'était de suivre ces cépages, l'évolution de ces cépages dans le temps. Et ces cépages, on a fait en sorte de sélectionner des cépages plus tardifs, les cépages du Bordelais, mais aussi des cépages plus tardifs qui viennent de régions plus chaudes, pour regarder leur comportement à Bordeaux. Donc, sur ce scénario 8.5, c'est sûr que les adaptations... Si on s'oriente vers ce scénario, à long terme, il y aura une adaptation du matériel végétal.
Donc, la situation qui risque d'arriver si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas va de pair avec un ensemble d'autres effets graves à l'horizon 2100, et pas seulement pour le monde viticole. Parmi eux, on compte une augmentation du risque de feux de forêt, des situations de stress hydrique et de pénurie alimentaire. Enfin, au-delà d'une approche purement climatique, il est intéressant d'étudier des scénarios possibles en fonction des actions de l'ensemble des acteurs de la filière.
Et c'est comme ça qu'est né le projet La Cave.
Nathalie Ola, chercheuse à l'INRAE de Bordeaux.
C'est un projet qui était multidisciplinaire dès le départ, qui a voulu de manière la plus systémique possible étudier les impacts du changement climatique sur la vigne, le vin et toutes les différentes étapes de la mise en valeur des vins et réfléchir ou mettre en place des outils qui permettaient de proposer des stratégies d'adaptation. Le plan d'action, on va dire, il a comme objectif de mettre en place des choses qui vont permettre au vignoble de rester en place et d'intégrer le plus possible d'innovation. Donc, le plan d'action proposé, il veut promouvoir une meilleure connaissance des régions viticoles actuelles sur la base de leur climat et de leur environnement pédoclimatique, on va dire. Il veut s'intéresser à l'ensemble des pratiques culturales, que ce soit au niveau des sols ou des couverts foliaires, pour favoriser l'adaptation. Il s'intéresse également au matériel végétal, au cépage, au porte-greffe. Il veut mettre l'accent également sur toutes les pratiques œnologiques qui permettent de mieux valoriser la matière première, cette matière première peut-être avec des nouvelles caractéristiques. Il y a un volet aussi important sur tout ce qui est les consommateurs et la mise en enfin, la prise en considération des consommateurs. Il y a un volet sur l'atténuation aussi qui est important, comment la filière peut contribuer à l'atténuation. Il y a un volet formation et communication également, parce que ce sont des axes de travail importants pour former les nouvelles générations de viticulteurs et de responsables et de les sensibiliser à ces questions de changement climatique.
En parlant d'atténuation, donc de comment diminuer la participation du vin de Bordeaux aux émissions de gaz à effet de serre, le CIVB a réalisé son bilan carbone. Ce bilan permet d'identifier les principaux postes d'émission et les actions à mettre en œuvre pour les réduire. Les principaux postes d'émission sont les matériaux entrants, comme la production de verre pour les bouteilles, mais aussi le fret et l'utilisation d'énergie dans toutes les étapes de la production du vin. Deux bilans carbone ont été réalisés, entre 2007 et 2013, et on note une baisse de 9% des émissions de gaz à effet de serre entre ces deux dates. Ainsi, la question du changement climatique est prise en compte par le monde viticole, bien conscient des multiples impacts que ce phénomène va avoir sur la production de vin à tous les niveaux. Pour y faire face, plusieurs solutions sont mises en place. Certaines sont de l'ordre de l'adaptation technique, pour répondre à l'instant T aux événements climatiques extrêmes. À un niveau plus global, réduire la vulnérabilité des exploitations passe aussi par la diversification des productions, notamment pour permettre de répondre aux besoins des Girondins, en fournissant des produits agricoles en circuit court. Dans tous les cas, la diminution des émissions liées à l'activité viticole doit être une priorité, de même que dans tous les secteurs, pour éviter de se diriger vers les scénarios les plus pessimistes.
Cet épisode a été réalisé dans le cadre du programme Cépage. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne YouTube de la communauté de communes de l'Estuaire, ainsi que sur la chaîne de la Traverse, disponible sur toutes les plateformes de podcasts.